SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
À la une de l'actualité, ce jeudi 16 mai 2024, la situation reste tendue en Nouvelle-Calédonie et en particulier dans Nouméa et ses environs. Quatre personnes, parmi lesquelles un gendarme mobile, ont été tuées au cours des émeutes qui secouent l'archipel depuis maintenant 3 jours. Emmanuel Macron a par ailleurs décrété l'état d'urgence. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est lui à Kiev pour annoncer une aide militaire conséquente à l'Ukraine, tandis qu'au même moment, Vladimir Poutine est en Chine où il va essayer de convaincre Xi Jinping de le soutenir davantage dans son effort de guerre. Enfin, le Festival de Cannes, qui a ouvert hier sa 77e édition, n'est pas épargné par le mouvement MeToo. L'actrice Judith Godrèche a ainsi projeté un film qu'elle a réalisé en s'appuyant sur les milliers de témoignages de femmes abusées sexuellement qu'elle a reçues après ses propres prises de parole publiques sur le sujet. En Nouvelle-Calédonie, malgré une nuit légèrement plus calme que les deux précédentes, la situation dans le Grand Nouméa reste extrêmement tendue. Aux nombreuses destructions matérielles ciblant des commerces, des concessions automobiles, mais aussi des écoles, 4 personnes ont été tuées au cours de ces émeutes, parmi lesquelles un gendarme mobile qui n'a pas survécu à la balle qui l'a touché à la tête. 64 autres gendarmes ont par ailleurs été blessés et près de 200 émeutiers ont été interpellés. Le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Louis Lefranc, désormais investi de prérogatives supplémentaires après la déclaration de l'état d'urgence par Emmanuel Macron hier soir, a annoncé l'assignation à résidence de 5 militants indépendantistes considérés comme particulièrement radicaux. Ils sont tous membres de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, une émanation radicale du parti indépendantiste FLNKS que le haut-commissaire a qualifié, je cite, d'organisation de voyous. Il appelle la population à limiter les déplacements au strict nécessaire, le port d'armes, même celles détenues légalement, et la vente d'alcool sont en outre interdits. Une volonté d'agir donc, de rétablir l'ordre et le calme en Nouvelle-Calédonie, rappelée hier soir par la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, au micro de Charlotte Urien-Tomaka pour RFI.
Il faut aujourd'hui agir et rappeler la nécessité de retourner au calme et à la sérénité. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, vous avez pu le voir sur les différents reportages, sur les différentes rédactions qui sont mobilisées et les images qui nous arrivent, c'est que la situation est digne d'un chaos, de scènes de chaos avec des violences extrêmement fortes. 4 morts, dont un gendarme en mission. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, plus que de venir commenter, c'est d'agir tout de suite pour rappeler au calme, comme ça a d'ailleurs été fait de manière unanime par les autorités compétentes sur place et les autorités politiques, indépendantistes et non indépendantistes.
Rappelons que ces violences sont liées au vote hier à l'Assemblée nationale d'une révision constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, une réforme à laquelle sont vivement opposés les militants indépendantistes Kanak. Pour les élus de gauche en France, cet embrasement en Nouvelle-Calédonie relève de la responsabilité du gouvernement et certains, à l'image par exemple de la députée écologiste Sandrine Rousseau, estiment que la réponse forte pour laquelle a opté l'Élysée est contre-productive. Elle s'exprime au micro de Aurélien Devernois pour RFI.
La responsabilité du gouvernement est importante, surtout que ce qui se joue actuellement en Nouvelle-Calédonie, c'est la question d'un processus de décolonisation. Et en fait, on utilise pour réprimer la volonté d'au moins une partie du peuple néo-calédonien des mesures qui sont des mesures de force, de répression et de couvre-feu, d'état d'urgence. Et en fait, ce sont exactement les méthodes d'un état dominateur et d'un état colonial. Donc en fait, on renforce l'idée et la mémoire de la colonisation sur ce territoire, là où au contraire, il faudrait apaiser et trouver les moyens du dialogue.
À noter enfin que le Premier ministre Gabriel Attal a pour sa part annoncé l'interdiction du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie, mais aussi et surtout l'envoi d'un renfort de 500 militaires depuis la métropole pour sécuriser les ports et l'aéroport de la Tontouta, qui à ce stade reste fermé aux vols commerciaux. Plusieurs centaines de Calédoniens sont ainsi bloqués en Australie. Nous les invitons à se rapprocher de Qantas et d'Air Calin pour que leurs hébergements soient pris en charge. Ils peuvent également rejoindre le groupe Facebook Les Calédoniens en Australie, où ces derniers jours, de nombreux résidents ont proposé leur aide, aussi humble soit-elle, à ceux qui se retrouvent donc coincés ici. Le Premier ministre slovaque est actuellement entre la vie et la mort. Robert Fico a été grièvement blessé par balle hier alors qu'il sortait d'une réunion avec les membres de son gouvernement. L'assaillant, qui lui a tiré dessus à plusieurs reprises, a été immédiatement arrêté, tandis que le Premier ministre a lui été transporté en hélicoptère vers un hôpital du centre de pays. Les précisions de Romain Lemaresquier pour RFI.
Il était tout juste 15h, heure de Paris, ce mercredi, lorsque l'on a appris que le Premier ministre slovaque avait été grièvement blessé par balle. Les faits se sont déroulés devant la Maison de la Culture, après une réunion de son cabinet à Andlova, dans le centre de la Slovaquie. C'est lorsque Robert Fico sortait et allait s'adresser à des personnes présentes qu'un homme a tiré à 5 reprises sur le Premier ministre. Le tireur a été immédiatement arrêté par la police, alors que pendant ce temps, Robert Fico, qui était encore conscient, était emmené par ses gardes du corps dans un véhicule pour être transporté dans un hôpital de cette petite ville. Pris en charge par le service de chirurgie vasculaire, Robert Fico a ensuite été transféré en hélicoptère dans un hôpital mieux équipé dans la localité de Banská Bystrica. Entre-temps, les autorités ont bien confirmé l'arrestation de l'assaillant, sans pour autant entrer dans les détails. Mais selon certains médias locaux qui ont diffusé des images du tireur, il s'agirait d'un homme de 71 ans, un écrivain. D'après le ministre slovaque de l'Intérieur, cet homme aurait agi pour des motifs politiques. C'est le pire jour de la démocratie slovaque, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse, appelant la classe politique slovaque à faire baisser les tensions.
En Ukraine, l'offensive russe redouble d'intensité, en particulier dans la région de Kharkiv, dans l'est du pays. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé à Kiev. Il est venu y annoncer une aide militaire importante et réclamée depuis des mois par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La correspondance aux États-Unis de David Thompson pour RFI.
En conférence de presse conjointe à Kiev, aux côtés du Premier ministre ukrainien Anthony Blinken, annonce le déblocage de 2 milliards de dollars. Cet argent fait partie des 60 milliards d'aides militaires américaines votées par le Congrès américain après des mois d'obstruction.
Il s'agit d'une aide en armes dès maintenant et par ailleurs d'aider l'Ukraine à renforcer ses capacités industrielles pour fabriquer les armes dont elle a besoin. Et cet argent va aussi lui servir à acheter des armes à d'autres pays, pas seulement aux États-Unis.
Une aide militaire débloquée en urgence, alors que les Russes continuent d'avancer à l'est.
Bien sûr, nos yeux sont tournés vers ce qui se passe à l'est et au nord-est, Kharkiv en particulier. Cette aide que je viens d'annoncer, mais surtout les 60 milliards, arrivent à un moment particulièrement critique.
Et alors que la Russie met en garde contre toute attaque sur son sol, Anthony Blinken estime que c'est aux Ukrainiens de décider s'ils frappent en territoire russe. David Thompson, Miami RFI.
Et puis je vous le disais dans les titres, le président russe Vladimir Poutine vient pour sa part d'arriver en Chine pour une visite officielle de 2 jours. Objectif, convaincre son homologue chinois Xi Jinping d'apporter un soutien plus appuyé à son effort de guerre en Ukraine. Et puis dans le même temps, l'ancien Premier ministre australien Scott Morrison a lui rencontré aux États-Unis Donald Trump, une rencontre qu'il a immortalisée avec une photo postée sur le réseau social X. Les deux hommes ont notamment abordé la question de l'alliance militaire entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, autrement dit le pacte AUKUS. Et Scott Morrison, interrogé par la chaîne ABC, n'a pas voulu révéler la position du candidat républicain à la présidence américaine sur le sujet, et ce alors que plusieurs experts considèrent qu'il est sans doute beaucoup moins enthousiaste à l'idée de livrer des sous-marins nucléaires américains à l'Australie que ne l'est l'actuel président Joe Biden. On écoute Scott Morrison.
Well, I'm not going to go into that because obviously a private conversation, but just to say it was a good opportunity to explain how AUKUS fitted into, you know, the issues in the Indo-Pacific, the contribution Australia makes as part of that, and the credible deterrent that's necessary to maintain a free and open Indo-Pacific. So to see AUKUS not just as, you know, a set of procurements or something like that, but its broader strategic role. And there's a high level of sort of alignment in thinking around that.
Et à propos de l'élection présidentielle américaine, l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, et son rival républicain Donald Trump se sont mis d'accord pour se faire face à l'occasion de deux débats télévisés. Le premier aura lieu dans un peu plus d'un mois, le 27 juin prochain, et le second le 10 septembre. Un accord qui n'a pas empêché les deux hommes de s'échanger indirectement quelques amabilités. Joe Biden a ainsi déclaré sur les réseaux sociaux qu'il ferait face à Donald Trump n'importe où, n'importe quand, tandis que Donald Trump a estimé que Joe Biden était le pire débatteur auquel il ait jamais été confronté. Le premier débat se déroulera sur CNN depuis leur studio d'Atlanta, en Géorgie, un État qui va jouer un rôle clé dans la course à la présidentielle. À noter enfin qu'un débat entre vice-présidents se tiendra également dans le courant du mois de juillet, juste après la Convention nationale des Républicains. On reste sur le continent américain, direction le Brésil, où le président Lula s'est rendu dans l'État du Rio Grande do Sul, frappé ces derniers jours par des pluies torrentielles et de violentes inondations. Il y a annoncé des mesures de soutien aux personnes ayant perdu leur maison. On les estime à près de 500 000, notamment une aide financière d'environ 1 500 dollars pour 240 000 familles désormais sans logis. Il a également annoncé le versement accéléré d'aide sociale pour les habitants de cet État, mais aussi son intention d'acheter des logements sur le marché privé pour y reloger les personnes sans abri.
For this reason, we are guaranteeing a way for people to come back to their homes. I want to repeat it loudly. All people who lost their homes will have the right to have a house.
Dessa coisa que aconteceu aqui, vai ter o direito de ter uma casa.
En Australie, la Cour fédérale vient de rendre une décision qui provoque la consternation de nombreuses associations environnementales. Elle vient en effet d'estimer que la ministre de l'Environnement, qui est entre autres chargée d'approuver ou non l'ouverture de nouvelles mines de charbon ou de forage gazier, n'avait pas à prendre en considération les émissions de CO2 générées par ces projets et leur impact sur l'environnement dans sa prise de décision. La ministre Tania Plibersek avait été poursuivie en justice par une organisation environnementale du Queensland qui lui reprochait d'avoir autorisé l'extension de deux mines de charbon. Et puis après la présentation du budget mardi soir par le gouvernement travailliste, le leader de l'opposition, Peter Dutton, doit lui prononcer ce soir un discours et des contre-propositions. Il devrait notamment aborder les questions de l'immigration et du logement, des sujets cruciaux selon le trésorier de l'opposition, Angus Taylor.
We are not seeing alignment between population growth in this country and our housing supply, and the victims of that is every Australian, those trying to rent a home, those trying to buy a home. This is a danger to the aspiration of so many Australians to own their own home and to live that Australian dream of being able to raise a family in a home that they own in this great country. So making sure we have housing supply and immigration aligned is something you're going to hear about tonight.
Concernant le conflit entre le Hamas et Israël, le Parti travailliste australien n'est pas unanime et ça s'est vu très nettement tout récemment. En effet, la sénatrice d'Australie-Occidentale, Fatima Payman, a vivement critiqué hier la position du gouvernement sur le sujet. Elle a par ailleurs qualifié l'offensive de l'armée israélienne dans la bande de Gaza de génocide. Elle a enfin conclu sa déclaration par la formule suivante « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre ». Un slogan qu'on entend beaucoup dans les rangs des militants pro-palestiniens, mais qui est sèchement dénoncé par les conservateurs, mais aussi le Premier ministre Anthony Albanese, pour qui cette phrase revient à nier le droit à Israël d'exister. Il a donc vivement condamné les propos de Fatima Payman sur ABC et rappelé que son gouvernement plaide pour une solution à deux États.
What's appropriate is a two-state solution. A two-state solution where both Israelis and Palestinians have the right to live in security, in peace and in prosperity. It is not in the interests of either Israelis or Palestinians to advocate there just be one state. That is a forerunner of enormous conflict and grief.
Et puis sur le même sujet, des militants pro-palestiniens ont passé pour le deuxième soir consécutif la nuit enfermés à l'intérieur de l'université de Melbourne. Une action qui a entraîné l'annulation des cours. La direction de l'université estime pour sa part que ce mode d'action contrevient au règlement intérieur. Elle a également fait part de sa préoccupation vis-à-vis d'une potentielle escalade des tensions entre les élèves et indiqué qu'elle collaborait étroitement avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité de tous. On fait maintenant un petit détour par la France où s'est ouvert hier le Festival de Cannes, une 77e édition marquée par le mouvement MeToo. Ainsi, l'actrice Judith Godrèche, qui a récemment porté plainte pour viol contre deux cinéastes, Benoît Jacquot et Jacques Doyon, va présenter l'ouverture de la section Un certain regard. Et sur une plage de la Croisette, elle a par ailleurs projeté un film de 17 minutes tournée avec les nombreuses anonymes qui l'ont contactée après ses propres déclarations publiques sur le sujet. Un film intitulé « Moi aussi ». Écoutez le récit de Sophie Torlotin pour RFI.
Sur les 5000 victimes de viol qui l'ont contactée par mail, Judith Godrèche en a filmé 1000.
J'avais 25 ans, j'avais 11 ans et demi.
Majorité de femmes de tous âges et quelques hommes rassemblés un jour de mars dernier à Paris.
Je me suis dit, mais comment utiliser le cinéma à bon escient? Comment raconter une histoire, celle de nous tous et toutes, sans instrumentaliser la vie, la présence de toutes ces personnes?
Judith Godrèche n'apparaît pas à l'image, mais elle filme sa fille, Tess Barthélémy, qui interprète une chorégraphie au milieu de cette foule d'anonymes.
La question maintenant, il s'agit de la poser à nos enfants. Avez-vous été abusé sexuellement et d'espérer que la réponse serait non? Et pour moi, c'était important d'incarner la jeunesse et de trouver un moyen de langage qui ne soit pas justement celui de tous les témoignages. On n'est pas dans quelque chose de littéral.
Pour l'actrice et réalisatrice, le mouvement ne fait que commencer et elle se réjouit que l'Assemblée nationale ait approuvé à sa demande la création d'une commission d'enquête sur les abus et violences dans le cinéma. Sophie Torlotin, Victor Hull, Cannes, RFI.
Et on finit ce bulletin en jetant un rapide coup d'œil à la météo du jour en Australie. Soleil et 28 degrés ce jeudi à Perth, nuages et seulement 22 petits degrés en revanche à Adelaide, 19 à Melbourne, 22 et quelques nuages dans le ciel de Sydney. À Brisbane, des averses et 23 degrés prévus aujourd'hui. En revanche, grand soleil à Darwin où il va faire jusqu'à 34 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.